mois de la
guerre. Je ne trouve pas scolaire dans vos contacts.
Je ne trouve pas scolaire dans vos voulez-vous appeler.
Est-ce que ça marche? Aujourd'hui, faire de la recherche implique toujours l'utilisation d'outils numériques. S'il est naturel dans les sciences pures et appliquées de considérer l'outil, son fonctionnement, les sciences sociales et humaines ne considèrent pas forcément comment leur relation à la technologie influence les résultats de la recherche et la création du savoir. En effet, les outils numériques s'invisibilisent. Leur utilisation devient, au fil du temps, si naturelle qu'elle n'est plus critiquée. Dans cet épisode, Yann Audin décrit les impacts d'une utilisation aveugle des solutions numériques et encourage la réflexion sur notre rapport à la matérialité de la recherche. Bienvenue à...
Scolaire. Théorie dysfonctionnelle.
Une balade diffusion qui nous explique
que la théorie ne sert à rien,
mais qu'elle a le mérite
de nous faire perdre beaucoup
de temps.
Bonjour tout le monde, dans cet épisode spécial de Scolet, notre invité est aussi notre animateur et coproducteur de Scolet, Yann Audin. Yann, voudrais-tu te présenter?
Bonjour, je m'appelle Yann Audin, je suis généralement animateur ici à Scolet, mais je suis aussi doctorant à l'Université de Montréal. Je travaille en humanité numérique dans le département de littérature et de langue du monde, sous la direction de Marcello Vitali Rosati. Et je m'intéresse beaucoup aux questions de sens, à l'herméneutique et à l'épistémologie.
Merci beaucoup. Aujourd'hui, quelle est la notion que tu vas nous présenter? Peux-tu d'abord nous la présenter de manière simple?
Oui, en fait, ce que j'ai présenté, c'est ce que j'appelle l'invisibilisation des outils numériques. Ce n'est pas du tout un concept qui est le mien. Je l'ai récupéré d'autres théoristes plus brillants que moi, mais je l'applique ici à la recherche en sciences humaines et en sciences sociales. L'invisibilisation des outils numériques, c'est lorsqu'un objet devient tellement naturel, tellement prévalent, qu'on oublie que c'est un outil, qu'on oublie même qu'on est en contact avec quelque chose qui est en dehors de nous. Et un exemple très, très simple de ça, mais là, je pense que je suis déjà dans la question 2, donc je vais m'arrêter ici.
C'est super intéressant et donc, de manière plus savante ou complexe, pas que la simplicité ne soit pas savante, mais si tu creuses plus dans ta réponse, qu'est-ce qui te fait te pencher sur ce concept?
Ce qui me fait te pencher sur ce concept, d'abord et avant tout, c'est un article de Ted Underwood, sur lequel je reviendrai plus tard, qui s'appelle « Theorizing Research Practices We Forgot to Theorize 20 Years Ago », dans lequel il parle de la barre de recherche comme étant un outil numérique dont on a commencé à oublier l'existence dans les dernières années jusqu'à ce qu'on ne sache plus vraiment qu'elle est là. On ne voit plus la barre de recherche, on voit seulement l'action de l'utiliser. Et ça nous ramène à des philosophes modernes, donc des philosophes avant, durant et après la Deuxième Guerre mondiale, tels que Heidegger, qui lui a beaucoup réfléchi à la notion d'outil et qui nous donne un exemple qui est celui du marteau. Le marteau, lorsqu'il est utilisé par quelqu'un qui sait s'en servir, devient assez rapidement une extension du bras. La personne peut ressentir avec le marteau, elle peut sentir où est le clou, elle peut sentir à quel point il est enfoncé. Un autre exemple, c'est celui du bâton d'aveugle. La personne à qui le sens de la vue est soit moindre, soit absent, peut sentir le sol de nouvelles manières. Un autre exemple encore, c'est celui de la vibration du téléphone qui devient un sens en tant que tel. Parfois, même ce sens fantôme de téléphone qui vibre alors qu'il n'a pas encore vibré. Les technologies étendent nos sens et les technologies, lorsqu'elles sont très prévalentes, deviennent naturalisées, elles deviennent quelque chose qu'on considère comme naturel. On ne pense plus aux vêtements comme étant quelque chose de par-dessus nous. On pense aux vêtements comme étant une extension de nous. La même chose peut être dite, donc, des outils numériques qui non seulement nous aident dans nos pratiques de recherche en sciences humaines, sciences sociales, mais également dans les sciences naturelles, mais elles ne font pas qu'aider. Elles forment, elles informent, elles limitent, elles permettent.
Et aurais-tu des exemples d'outils numériques qui, selon toi, constituent ce genre d'extension? Parce que je suppose qu'on pourrait aussi imaginer que la technologie qui évolue toujours ne peut pas donc toujours se naturaliser super rapidement. Il y a peut-être une certaine gamme d'outils qui, avec le temps, sont devenus plus habituels, mais d'autres peuvent encore paraître aliens, surtout s'ils sont nouveaux. Est-ce qu'il y a une période de temps? Comment est-ce que tu mesures ça? De quels outils spécifiquement est-ce que tu voudrais parler?
Il y a pour chaque innovation technologique une période durant laquelle l'innovation est encore utilisée par très peu de gens, suivie de soit une adoption générale, une adoption spécialisée ou une disparition ou une transformation de la technologie. Dans notre cas, c'est facile de voir que certaines technologies numériques ont été adoptées par presque tout le monde. Il n'y a pas aucun étudiant qui sort, je pense, du secondaire sans savoir utiliser Word, qui est une petite bureautique qui a été adoptée par les universités.
Ouais.
Prenons l'exemple de Word pour l'instant. Word, en tant que logiciel de traitement de texte, permet aux gens de faire des choses qui sont extraordinaires qu'on ne pouvait pas faire sur du papier. Word permet d'écrire, d'effacer, copier-coller. Word permet de voir à quoi ressemblera la page imprimée avant d'être rendue là. Permet l'inclusion de graphiques, ce qui n'était pas possible à la main sans un investissement de temps considérable. Il y a des gens qui ont commencé à penser aux effets du traitement informatique du langage comme étant transformateur de notre geste d'écriture. Certaines personnes qui travaillent d'ailleurs au laboratoire où je me situe moi, à la chaire de recherche du Canada sur les écritures numériques, ont travaillé là-dessus. Antoine Fauchy en étant l'un d'entre eux, qu'on a eu ici comme invité il y a de cela environ un an. Word est plus qu'une simple imitation de ce que l'on faisait avant sur papier. De nouvelles affordances, de nouvelles limites également apparaissent, dont l'impact a été assumé comme étant moindre sur le geste de recherche. Mais en utilisant traitement de texte automatique, la langue devient soudainement moins figée, plus malléable. Il est beaucoup plus facile de se corriger au fur et à mesure, ce qui veut dire qu'il y a à la fois une rapidité dans le clavier versus le crayon, mais aussi une lenteur dans le fait que chaque mot peut être considéré, peut être effacé, peut être corrigé au fur et à mesure. Word nous permet d'arrêter notre pensée et d'y revenir de manière cyclique, phrase par phrase. Word nous permet également de collaborer à plusieurs sur le même texte, nous permet d'avoir des commentaires de plusieurs personnes qui ne sont pas limités par la taille de la page. Dans le milieu académique où deux ou trois évaluateurs et évaluatrices contribuent à la publication finale, parce que c'est une contribution ce qu'ils font, on n'a plus du tout les limites que le papier avait. Mais cet exemple-là, c'en est un simple parce que les logiciels de traitement de texte, à la fin, ils tentent d'imiter quelque chose qui existait déjà, même s'ils le font de manière nouvelles, même s'ils changent notre règle d'écriture, ils tentent d'imiter la page sur laquelle on pouvait écrire. Certains outils numériques, eux, n'imitent rien du tout. Certains outils numériques sont plutôt quelque chose de complètement nouveau, de complètement frais dans le milieu universitaire, dans le milieu académique. Et l'exemple que donne Ted Underwood dans l'article que j'ai cité plus tôt, « Theorizing Research Practices We Forgot to Theorize 20 Years Ago », il parle donc de simplement faire des recherches sur des bases de données. Et cette recherche-là, elle n'est pas quelque chose qu'on faisait avant sous cette forme. Avant, la recherche, elle se faisait avec l'aide de spécialistes dans un lieu précis, avec les documents qui étaient accessibles dans ce lieu. On partait de mots-clés, on partait d'immenses index d'œuvres, on prenait l'œuvre, on la fouillait manuellement, on allait dans l'index de l'œuvre s'il y en avait une, dans la table des matières, on cherchait les passages qui étaient importants, on les recopiait à la main. Maintenant, l'acte de recherche se fait dans les bibliothèques de l'ensemble du monde en une fraction de seconde, à partir cette fois-ci encore de mots-clés. Par contre, alors que le système de librairie que l'on avait avant se basait sur les auteurs, les éditeurs, les maisons d'édition pour générer ces listes de mots-clés pour chaque ouvrage, pour chaque article, chaque journal avait son propre système de référencement. Maintenant, la plupart de ces pratiques ont été complètement enlevées du registre de l'être humain et ont été placés entre les mains de la machine. Maintenant, ce sont des algorithmes parfois très simples, comme la mesure TF-IDF, qui nous indique qu'un mot est très rare, mais on le retrouve dans ces six textes. Ces six textes doivent traiter de ce mot qui est important et rare. Et donc, si on cherche, soit dans Google Scholar, dans JSTOR, dans Papyrus de l'UDM, c'est ces textes-là qui vont ressortir. Mais parallèlement, on a également des méthodes beaucoup plus complexes qui font des choses de manière invisible dès qu'on fait une recherche en ligne. Et l'un de ces mécanismes-là, c'est les algorithmes de recommandation qui mettent ce que l'algorithme a trouvé dans la base de données en ordre. Quel ordre? D'où vient cet ordre? La plupart des gens ne le savent pas parce que ce sont des méthodes très cryptiques, des méthodes boîte noire, des méthodes hermétiques qui sont gardées hermétiques parfois pour des bonnes raisons, dans le cas de Google parce que c'est leur propriété intellectuelle, parfois pour des mauvaises raisons, soit parce que les utilisateurs s'en foutent ou parce que ça a été mal documenté. Mais l'algorithme de recommandation est rendu tellement pervasif, tellement prévalent dans nos vies que le fait de vivre nos vies sans savoir ce qui se passe dans la machine, lorsque, en tant que chercheur, on fait une recherche sur, encore une fois, G-Star, Google Scholar, sur WorldCat ou sur n'importe quelle autre bibliothèque en ligne, le fait de ne pas connaître ce qui se passe dans la machine est un immense problème. Est-ce que le premier résultat, c'est celui dans lequel les mots que j'ai cherchés apparaissent le plus souvent? Est-ce que c'est le texte qui a été le plus cité dans lequel mes mots apparaissent? Est-ce que c'est le texte le plus récent? Est-ce que c'est le texte qui a sponsorisé, le texte d'un auteur qui a donné de l'argent pour qu'on sponsorise son contenu? Ça arrive moins dans le milieu académique, mais ça arrive sur Google, où est-ce que les premiers résultats sont toujours des résultats qui ont la petite marque sponsored parce qu'ils ont donné de l'argent à Google pour arriver les premiers dans le table de recherche. Ce qui se passe dans la machine est invisible et ce n'est pas l'invisibilisation que je mentionnais il y a un instant. C'est pas que nous, en tant que chercheurs, on a oublié qu'il y a un algorithme de recommandation. C'est que l'algorithme de recommandation cache sa vraie nature. Encore une fois, parfois pour des bonnes raisons, parfois pour des mauvaises raisons. Et en tant que chercheur, je suis, vous êtes, nous sommes influencés par les textes que nous lisons, surtout dans les sciences humaines et les sciences sociales. Et tout d'un coup, une partie importante de notre processus de recherche se trouve entre les mains de quelque chose qu'on ne connaît pas. Il n'y a pas juste la recherche, il n'y a pas juste le traitement de texte. Les outils numériques sont utilisés partout. La manière dont on collabore a été transformée par l'arrivée des emails qui tentent de copier l'envoi de lettres, mais instantanées. On a maintenant la visioconférence qui tente, tant bien que mal, d'imiter une rencontre présentielle. Maintenant, la collaboration ne se fait pas seulement entre personnes qui ont une même institution, qui sont présentes au même endroit, au même lieu. On peut avoir des articles écrits à 12 mains sans que personne ne se rencontre jamais. Encore une fois, ça a un impact sur comment est-ce qu'on fait de la recherche, ça a un impact sur qu'est-ce que l'on produit. Si je peux rentrer dans une minuscule anecdote, Eric Auerbach, quand il s'est exilé à Istanbul pour écrire ses écrits aujourd'hui les plus connus comme Mimesis, il avait accès à la bibliothèque d'Istanbul qui était, à l'époque, peu fournie. Mm-hmm. Il se retrouve donc dans une situation où est-ce qu'il n'a pas accès à tout ce qu'il avait dans les universités européennes. Il n'a pas ses collègues avec lui. Et donc, son approche à la recherche en devient une qui est complètement différente. Il se concentre sur les textes du canon qui sont présents à Istanbul. Et il change de tout au tout à la fois ses pratiques, mais également ses sujets, ce qui le mène à écrire ses textes les plus importants. Auerbach, sans l'exil qui lui est imposé par la Deuxième Guerre mondiale, je ne sais pas si on se souvient de lui.
Ouais. Là, dans cette anecdote spécifiquement-là, tu te penches sur le contexte dans lequel une recherche est menée, les outils, mais il n'y a donc pas de numérique. Ça mène à une question qui est en fait un peu double. La première étant, est-ce que l'invisibilisation des outils numériques que tu mentionnes n'est-elle pas tout simplement aussi liée à une invisibilisation des outils en général? C'est-à-dire, on parle des outils numériques qui sont naturalisés, mais peut-être aussi que c'est seulement l'extension chronologique d'une invisibilisation des outils de recherche en général, qu'ils soient numériques ou non. Et ça me fait... Donc, la deuxième partie de cette question serait pour moi, est-ce que d'après toi, s'il y a une plus grande invisibilisation des outils numériques par rapport à des outils analogue, disons, ou en tout cas non numérique, est-ce que ça serait inhérent au design des outils numériques que tu décris comme étant mimétique de pratiques analogues? Donc, est-ce que c'est ce mimétisme des pratiques analogues qui les rendent plus intuitives ou plus facilement invisibilisées?
Oui, aux deux questions. D'abord, par rapport aux outils numériques versus les outils analogues, c'est selon moi le même phénomène. Il y a une naturalisation qui s'est faite, par exemple, de la notion de page, où est-ce que la page est maintenant le support du texte, alors que pendant une bonne partie de notre histoire. La page n'est pas du tout le support du texte, elle n'était pas naturelle, elle n'était pas normale. On avait le rouleau, on avait la tablette, par exemple. Et par tablette, je ne parle pas de la tablette numérique, je parle de le cunéiforme dans la tablette de glaise.
Ouais.
Il y a eu une invisibilisation de plusieurs de ces méthodes. Il y a même eu une invisibilisation de technologies que je qualifierais d'humaines, où des gens qui faisaient partie de l'appareil de recherche étaient invisibilisés parce qu'ils étaient vus comme on voit les technologies aujourd'hui. On en a parlé d'ailleurs dans notre premier ou deuxième épisode sur l'invisibilisation des petites mains. Le bibliothécaire, les secrétaires, les éditeurs, tous ces gens-là font partie d'un appareillage technologique. C'est une pratique culturelle qui est ancrée dans la matérialité. C'est une forme, selon moi, de technologie qui a été invisibilisée. Et oui, c'est exactement le même phénomène que l'on voit aujourd'hui avec l'invisibilisation des différents logiciels, différentes technologies. Toutefois, j'ajouterais, et là je répondrai à la deuxième question, j'ajouterais à cela que l'invisibilisation de la technologie, elle est un peu plus pernicieuse parce que toutes ces technologies se trouvent généralement sur les mêmes médias. Et donc, au lieu d'avoir l'invisibilisation d'un média ou d'une personne, on a un média qui a été naturalisé, celui de l'écran et du clavier, en dehors des pratiques de recherche, celui de l'écran d'ordinateur, celui de la télévision, celui d'une paire d'écouteurs. Tout ça devient de plus en plus naturel. Et là, je me référais à notre épisode sur le bug avec Marcello. C'est quand même l'avantage d'avoir animé tous ces podcasts, c'est que maintenant, on peut faire du méta à ce collet. Ce qui est pernicieux du média numérique, c'est que le média, oui, devient invisible. L'écran, le clavier ont été naturalisés jusqu'à être pris pour acquis. Et c'est très rare qu'on pense à notre clavier. J'imagine que la plupart de nos auditeurs ont, à un moment ou à un autre, eu la malchance de commencer à taper, de se rendre compte que ce n'était pas un clavier QWERTY, mais c'était un clavier AZERTY. Ou l'inverse, si vous êtes français, de tomber sur un clavier QWERTY, ne plus savoir tout d'un coup utiliser votre clavier. Donc, dans ce bug, je cite Marcello, qu'on a reçu il y a quelques épisodes, c'est dans le bug que se révèle toute notre incapacité à voir ce qui est directement devant nous. Les outils qui ont été naturalisés deviennent visibles dans le bug. En sciences humaines, sciences sociales, en sciences pures, on ne peut pas se permettre de perdre de vue notre outil. C'est quelque chose que j'ai appris dans mon temps en tant qu'étudiant en physique. Ce que je trouve le plus fascinant en physique moderne, c'est la centralité des instruments de mesure. Que ce soit en astrophysique, où est-ce que chaque télescope est assumé comme étant imparfait et donc on compare les images du télescope avec celles de d'autres télescopes pour essayer de trouver quels sont les artefacts précis de celui-là et les corriger directement à la source, de sorte que chaque image imparfaite devienne ce qu'on assume être parfait. Ou encore en physique des particules, où l'instrument de mesure est un élément fondamental de l'existence même de la théorie, l'outil ne peut pas être oublié. Et dans un domaine comme les sciences humaines, où on a encore ce mythe du génie, ce mythe de l'être humain seul, entouré de livres écrits par d'autres êtres humains qui ont écrit seuls et qui réussit à créer à partir de son isolation en tant que génie, quelque chose de nouveau, de beau, de grandiose, d'important. Tout ça met en valeur cette naturalisation de l'outil, non pas seulement du point de vue du public, mais également du chercheur. J'ajouterais à tout cela qu'en ce moment, les principes de design les plus importants dans la création d'outils numériques sont des principes de design qui mènent à une invisibilisation encore plus grande de tous ces outils que l'on retrouve dans le média numérique. Les outils doivent être fonctionnels. L'impératif fonctionnel est d'ailleurs mentionné par Marcello dans son livre « Pour l'éloge du bug ». L'intuitivité, le fait d'être facilement intégré à un réseau de gestes et un réseau de signes que l'on connaît déjà en tant qu'utilisateur, et finalement une rhétorique de l'immatériel, du fait que la machine, peut-être qu'elle est matérielle, oui, mais tout ce qu'on fait en ce moment, en fait, du monde des idées, tout ce qu'on fait en ce moment avec notre ordinateur est purement humain, ne vous en faites pas ce qui se passe à l'intérieur de la machine, pas besoin de le voir, pas besoin de savoir que quelque part, 10 couches de code de nous, écrit en assembly, il y a une petite micropuce qui est en train de changer des 1 pour des 0, vous n'avez pas besoin de le savoir, soyez humain. Et cette idée du soyez humain, tout est intuitif, tout est fonctionnel, tout fonctionne toujours, ce sont des principes qui mènent à l'invisibilisation de tous ces nouveaux outils qui sont tous, pas tous différents, mais qui parfois sont très différents les uns des autres, mais qui semblent fonctionner de la même façon, qui semblent fonctionner de manière intuitive, de sorte que maintenant, on a des logiciels comme ChatGPT qui imitent quelque chose qui est très, très intuitif, le chat. On est rendu à un point où est-ce qu'en anglais, le chat serait peut-être le premier pronom à la quatrième personne, où est-ce qu'on peut dire « Hey chat, qu'est-ce que tu penses de ça ?» en parlant à personne, en parlant à un observateur potentiel et imaginaire. Donc, en reprenant cette structure du chat, les chatbots sont entrés sur le marché pré-invisibilisés, déjà prêts à ne pas être vus comme étant une nouvelle technologie, mais en étant quelque chose d'intuitif. Et on est rendu au point où est-ce que ChatGPT est le 8e site web le plus visité au monde déjà. Et où est-ce que des étudiants, il y a des témoignages de professeurs et d'enseignants qui disent « Ah, c'est une bonne question, cherchons en ligne, c'est quoi la réponse ?» Et eux, ils ouvrent Google alors que leurs étudiants et étudiantes ouvrent ChatGPT à la recherche de la réponse. Donc, ça a été complètement invisibilisé.
Tu mentionnais donc l'exemple des outils en physique, tels que les télescopes. Dirais-tu, je pense que ça faisait partie de ta présentation de ton sujet au début de l'épisode, mais dirais-tu donc que c'est plutôt en sciences humaines que les outils numériques sont invisibilisés ou est-ce que dans toutes les sciences, tu sentirais ça? Parce qu'on pourrait aussi dire que certains outils privilégient d'un examen plus minutieux, par exemple un télescope qu'il est difficile d'ignorer, mais peut-être que même un physicien ou une physicienne pourrait en fait ne pas voir son propre usage de Google, par exemple. Donc, quels outils, selon toi, bénéficient d'une plus grande attention scientifique et lesquels et pourquoi, j'ai peur de tourner en rond avec mes questions, mais lesquels et pourquoi n'en bénéficient pas?
Dans plusieurs sciences, il y a des gens qui travaillent directement avec l'outil et d'autres qui travaillent avec les données. Mon expérience limitée de la physique, j'étais 6 ans dans le domaine, mais pas plus. Il y a les instrumentalistes, il y a les théoriciens, et il y a beaucoup de data mining, tellement que le prix Nobel de physique de cette année a été remis à des gens qui ont été importants dans le développement des réseaux de neurones.
Okay.
C'est pas des physiciens, c'est pas pour de la physique qu'ils l'ont reçu, mais c'est pour un outil qui est maintenant utilisé beaucoup en physique. Ce que je cherche à dire ici, c'est que dans tous les domaines, il y a des gens qui oublient complètement l'existence de leurs outils. Et que selon moi, il n'y a pas de domaine où est-ce que c'est plus facile de se rendre compte qu'on est en train d'interagir avec des outils qu'on connaît pas toujours, que l'on ne comprend pas toujours. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a des outils qui sont conçus spécifiquement pour être oubliés. Et d'autres qui ont été conçus de sorte qu'ils sont plus difficiles à oublier.
Mm-hmm.
La personne qui développe un télescope n'oublie pas qu'il ou elle est en train de développer un télescope. La personne qui utilise des méthodes statistiques dans l'analyse des données textuelles et qui code à la main chaque ligne n'oublie pas qu'elle est en train de coder. La personne qui utilise un logiciel commercial intuitif pour faire la même analyse n'a pas besoin d'avoir la même réflexion que la personne qui code son propre outil. Elle peut avoir la même réflexion, mais les conditions de travail établies autour d'elle ne mènent pas obligatoirement à la réflexion. Et là encore, je parle légèrement au travers de mon chapeau parce que même les gens qui codent comme moi ne savent pas tout ce qui se passe dans la machine parce qu'ils utilisent le code d'autres personnes. Ils utilisent le code de gens qui sont spécialisés. Ils vont chercher ce savoir spécialisé, matérialisé en ligne de code pour l'utiliser eux-mêmes sans forcément savoir qu'est-ce qui se passe dans la machine. Et donc, nous sommes tous et toutes coupables de fermer les yeux. Nous avons tous et toutes le potentiel d'être critiques par rapport aux outils que nous utilisons et peu de gens ont le temps et l'énergie de le faire.
Mm-hmm. Et donc, à plusieurs égards, tu as clairement répondu à la troisième question. Je vais la poser quand même parce que je pense qu'on peut même développer un peu plus là-dessus, qui est donc notre fameuse dernière question, en quoi est-ce que ça nous fait dysfonctionner? Donc, c'est ça, tu as déjà répondu de plusieurs manières, mais peut-être qu'on pourrait parler juste un peu plus, selon toi, des conséquences déjà de cet oubli, aller plus en détail là-dedans, et peut-être quelle piste de solution, pas qu'on soit une balado très... dont le but est justement de parvenir à des solutions, mais voilà, peut-être de juste développer plus sur les conséquences de cette invisibilisation et les suites que tu donnerais à cette question.
il y a d'importantes conséquences épistémiques à ces questions. La conséquence la plus importante de l'invisibilisation des pratiques et des technologies du numérique en recherche, c'est la pluralité de communautés de pratiques qui ont toutes leur propre ensemble d'outils qu'ils utilisent. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on se retrouve avec des gens qui vont invisibiliser seulement le traitement de texte. C'est la seule chose qu'ils utilisent. Ils utilisent des emails, des traitements de texte, du traitement de texte, et c'est tout. Appelons cette personne, je suis sûr que tu es capable de penser à une personne comme ça dans ta tête, mais on va l'appeler juste le classiciste. C'est quelqu'un qui utilise les outils numériques comme si c'était des outils papier, sans se soucier des différences, parce que la seule différence, c'est que maintenant, c'est plus rapide. Prenons une deuxième personne hypothétique qui s'assure de toujours avoir le meilleur outil pour la job, peu importe ce que ça lui coûte. Le téléphone, l'ordinateur le plus puissant, le logiciel le plus à jour, la suite Office qu'il ou elle maîtrise parfaitement, le gestionnaire de citation Mendeley qui appartient à la Giga Corporation à ce point-ci, Elsevier. Cette personne-là est dans un écosystème d'outils qui se répondent et s'appellent les uns les autres parfaitement parce qu'ils ont été développés avec l'impératif fonctionnel en tête, avec l'intuitivité en tête. Cette deuxième personne-là, on va l'appeler l'adopteur. Il adopte les outils du monde corporatif. Et finalement, on va avoir un troisième archétype. Cette fois-ci, on va le nommer. On va dire que c'est Marcello parce qu'on le connaît l'un comme l'autre et les auditeurs, je pense, le connaissent de son épisode. Donc, Marcello qui utilise un vieux ThinkPad des années 90 sur lequel il y a Linux, qui écrit tout sur Vim, qui est un éditeur de texte qui est plus vieux que moi, qui est sorti en 1991, qui évite à tout prix Zoom, à tout prix Word, qui serait notre cybercritique.
OK, ouais.
Ces trois personnes-là ont une approche différente à la technologie. Mm-hmm. Mais c'est plus que ça. Ils et elles n'utilisent pas la technologie dans le cadre de leurs activités de tous les jours. Ils l'utilisent dans le cadre de la recherche. Dans une même université, il y a des gens qui ont un horizon technologique qui est celui d'une machine qui imite l'outil analogue. Et c'est là que leur réflexion sur la technologie s'arrête. C'est également là que les limites de la technologie s'arrêtent. Il y a une personne dans cette même université qui peut faire des choses extraordinaires très, très rapidement à partir d'outils très complexes et sophistiqués. C'est notre adopteur dans un contexte technologique fermé et dont la production de recherche est à la fois permise, mais aussi limitée par des outils qui ont été créés spécifiquement pour l'industrie. On a une autre personne qui n'a pas le choix à cause de ses décisions technologiques d'avoir une réflexion critique sur la technologie à tout moment et d'être en permanence en train de perdre du temps à faire en sorte que les choses fonctionnent parce qu'il ou elle utilise des outils qui ont été créés en dehors de l'impératif fonctionnel.
Ça pourrait être le sujet d'un autre épisode, mais je me demande à quel point est-ce que ces outils, au moment même de leur sortie sur le marché, avaient vraiment été créés en dehors de l'impératif fonctionnel. Peut-être qu'ils ne correspondent plus aux attentes d'aujourd'hui pour la fonctionnalité et la production, mais oui.
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, ils sont sans doute en dehors de l'impératif fonctionnel, mais ils étaient sans doute en 1991, je l'accorde. Mais mon point avec tout ça, et je reviens à l'exemple du marteau ou de la canne pour personnes malvoyantes, la technologie, c'est une extension de nos sens. C'est aussi une extension de notre cognition. Ça crée notre horizon. Mm-hmm. Notre horizon technologique, c'est aussi notre horizon épistémique. Nos trois archétypes, l'adopteur, le classiciste et notre supercritique, c'est pas juste que leurs pratiques de recherche sont différentes. C'est que leurs sens sont différents. Et donc, leurs schémas de pensée sont différents. Donc, leurs langages sont différents. Leurs cultures sont différentes. L'université est, oui, déjà un assemblage de plein de cultures différentes, de plein de façons de voir le monde différentes. Mais l'outil numérique n'est pas seulement quelque chose sur lequel on fait de la recherche, n'est pas simplement quelque chose avec lequel on fait de la recherche, c'est aussi le sol même sur lequel notre recherche repose. Et en ce moment, on est dans dans une situation où ce sol n'a pas été théorisé. Mm-hmm. Ted Underwood, encore une fois, je le cite, a théorisé enfin qu'est-ce que c'est que de faire de la recherche sur une base de données et toutes les conséquences épistémiques qui en découlent. Le même travail doit impérativement être fait pour le traitement de texte. Mm-hmm. La visioconférence, l'email, les outils statistiques qu'on utilise en sciences humaines et en sciences sociales.
Les algorithmes des bibliothèques, par exemple, que tu mentionnais. Les moteurs de recherche des bibliothèques, oui. Des catalogues, ouais.
L'algorithme de recommandation, oui. Mm-hmm, mm-hmm. Tout ça doit être théorisé, et non seulement il doit être théorisé, mais il doit être compris, parce que sinon on va rester dans un monde où est-ce que des acteurs qui ne sont pas les chercheurs et les chercheuses ont la mainmise accidentelle sur les processus de recherche et de pensée.
Merci beaucoup pour cette réflexion super intéressante sur la présence et l'invisibilisation aussi de nos outils, des outils qu'on utilise tout le temps et pas qu'en recherche. Et puis, merci à tout le monde d'avoir écouté cet épisode et on se revoit pour un prochain.
Merci d'avoir écouté Scolet, une balade aux diffusions proposée par la Chaire des recherches du Canada sur les écritures numériques. Nous espérons que vous ne retrouverez pas le temps perdu, mais que vous continuerez à en perdre encore, en nous suivant sur scolet.écriturenumérique.ca, S-K-H-O-L-E, écriturenumérique au pluriel.ca, et en écoutant nos prochains épisodes.